Mobile studio.
Studio mobile, radio du roi, ici à
RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, le 11 septembre 2015, nous nous situons aux 30 ans de l'association Relié qui se passe au Chapelain à Saillant. Et en face de moi, Cécile et Jean-Michel Vialon qui ont participé à une expérience d'habitat groupé et qui ont fondé une association qui s'appelle Eco Habitat Groupé qui s'est passée depuis les années 70-80 à Villefontaine dans le Nord-Isère. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Alors, il y a peut-être des choses un peu à préciser. Quand on a fondé notre projet, la Viorne, enfin, avant, on appelait ça l'habitat groupé. En fait, on a été au courant qu'il y avait une association nationale qui s'appelait le Mouvement, le MHGA, Mouvement d'habitat groupé autogéré, voilà. Donc, qui était à Paris. Donc, on est devenu adhérent de ce mouvement. Voilà. Et puis, nous, notre habitat, il est sorti de terre et on a habité dedans en 1985. Bon, après, il s'est trouvé que le MHGA a périclité. Hein?
À partir de 95.
Voilà, à partir de 95. Et celui qui avait fondé le MHGA, donc, a voulu qu'on reprenne, qu'il y ait à nouveau une association, parce qu'en fait, il constatait que l'écologie avait pris une importance plus grande qu'avant. Quand on a fait notre habitat, il y en avait d'autres qui faisaient du bioclimatique, ce qu'on appelait. Et là, on partait pour des habitats écologiques. Donc, et du coup, il a refondé l'association en l'appelant Eco Habitat Groupé. Voilà. Donc, ça, c'était en 2009.
Alors revenons un petit peu à cette expérience d'habitat groupé, très simplement, de quoi s'agit-il et peut-être même aussi quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'expérience.
En fait, en ville nouvelle, il y avait un dynamisme auprès des jeunes ménages et on était, il faut dire les choses, des militants issus de mai 68, arrivés en ville nouvelle en 75 et donc en 79, on connaissait déjà d'autres militants, on avait sympathisé avec des jeunes couples et on s'est dit ben pourquoi pas habiter les uns à côté des autres au lieu de sans arrêt aller se chercher. Il y avait à la fois des nouveaux et à la fois des amis anciens.
Voilà. Et c'était à une époque où il y avait beaucoup de logements et là où on a habité dans un petit immeuble à Villefontaine,
trois étages.
On est venu habiter avec nos copains de Lyon, là. Donc eux à un étage, nous en dessous. Et puis c'est mon ami d'enfance. Et puis voilà, on a connu des gens. Et puis bon, venez habiter
place.
Au bâtiment A des Oursons. Voilà, hop. Donc petit à petit, voilà, on s'est retrouvés pas mal comme ça, habiter dans le même immeuble. Et voilà, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions.
Question à dire, mais c'est trop petit les appartements, voilà. Pour les enfants, pour nous. Dès qu'on est trois familles, on ne sait plus où se mettre. Imaginons quelque chose.
Pour faire la fête, pour
faire la fête
pour faire garder des équipements communs.
Pour faire garder les enfants, pour garder les enfants aussi.
Pour garder les enfants et pour faire la fête.
Essentiellement.
Essentiellement. On a fait un manifeste qu'on a envoyé à trois sociétés d'HLM. Il n'y en a qu'une qui a répondu en disant « Ok, on y va ».
Alors, manifeste, c'est bien le manifeste de l'époque. Hein. Par exemple, à un moment, il y avait des trucs très précis. Hein, on voudrait une buanderie.
Non, pas la
on n'a pas parlé de buanderie.
Non,
on a parlé de salle commune, de voilà.
Mais
par exemple, à un moment, il y en a un qui a marqué « Je voudrais que ma demeure ne soit pas celle d'un demeuré ». C'est bien des réflexions de ce temps-là.
Eh bien, on est allé les voir parce que, en fait, comme on est dans le Nord-Isère, on a dû aller à 60 km à Voiron, qui est près de Grenoble. On a entré le directeur, il a dit « Ok, allez-y, je vous nomme monsieur mec, il suivra votre projet, choisissez l'architecte. »
On a eu deux personnes qui nous ont suivis, un pour les finances et puis l'autre, c'était comme ça, c'était de l'accompagnement.
Pour donner les instructions aux différents services, pour dire, comprendre qu'est-ce qu'on voulait, comment on le faisait.
Voilà, et tout ça pour faire le lien, parce que quand même, ils ont eu des relations avec l'aménageur, ils ont eu des relations avec le ministère du Logement.
Oui, pour avoir un surcoût d'études.
Pour avoir un surcoût d'études pour les locaux communs, c'était quand même pas prévu non plus.
Il n'y avait pas les fonds.
À l'époque, il n'y avait pas les fonds. Voilà, donc en fait, ils ont fait quand même pas mal de choses, mais ils nous ont laissé le choix d'architecte. Bon, alors l'architecte, ça n'a pas été facile.
Ouais. Je vous interromps tout de suite parce que déjà qu'une société HLM accepte que des habitants s'investissent dans la conception des HLM, ça ne me paraît pas si répandu que ça.
Ah bah non.
Non, non.
Non, non, non.
Et donc ils étaient particulièrement ouverts d'esprit.
Oui, 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 c'est sûr, on a eu de la chance.
Et oui, ils avaient un autre projet.
Le même, mais
le
non.
Le même, mais non. On ne savait pas, on l'a su il n'y a pas très longtemps. Qu'on le
si, on le savait, mais ce n'était pas notre souci.
Enfin, on ne les connaissait pas, on ne les connaît pas depuis longtemps.
Ouais. Pour en revenir à cette histoire d'habitat groupé, vous avez mis combien de temps à ce que ça sorte de terre?
On a commencé, le manifeste, on l'a écrit en 79. On a fait des réunions dans l'année 78. On a eu l'accord des HLM en 79-80. Donc après, on a travaillé avec eux, avec architectes, à recherche de terrain, etc. Et d'entrepreneurs, parce que c'est difficile de trouver un entrepreneur qui ne fasse pas 40 logements. Soit ils en font 40, soit ils en font 2. Et ils ne savaient pas en faire 13, 12. Voilà, ils ont fini par trouver.
Et puis ça a été difficile avec l'architecte. Il y a eu plusieurs avant-projets sommaires qui sont partis à la poubelle.
Parce que ça coûtait trop cher. Ah, ou parce ça allait rentrer dans les prix HLM.
Alors, l'architecte aussi, en même temps, il ne savait pas. D'abord, travailler avec un groupe. Et deuxièmement, tenir compte des desiderata spécifiques à un groupe. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait pouvoir circuler à l'intérieur du bâtiment, d'un appartement à un autre, ou d'un appartement aux locaux communs, ou des locaux communs à un appartement. Voilà. Il discutait avec chaque famille de son logement, mais pas...
Pas de ce qu'on ferait ensemble.
Pas de ce qu'on fait ensemble. Enfin bon, ça a duré, ça a ramé, et jusqu'au jour où finalement, c'est notre copain là, qui était graphiste à l'époque, qui lui a dessiné le principe du bâtiment. Le bâtiment comme ça, en disant, bah tiens, le terrain est en pente comme ça, voilà,
en
là
long.
C'est l'est, là c'est l'ouest, il est en long, et ben on va faire un truc avec... un étage, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Alors, on rentrera au rez-de-chaussée derrière, mais on est déjà au premier de l'autre côté. Et puis, voilà, au milieu, les coursives. Alors, suivant le terrain, parce qu'il est comme ça, mais il est aussi en pente comme ça. Alors, à un endroit, il y aura deux coursives, l'une sur l'autre, et de l'autre côté, après, il n'y a plus qu'une. Voilà. Eh bien, l'architecte a dit, mais voilà, mais c'est très bien. Donc, et après, lui, il a fait de l'ingénierie, c'est-à-dire il a fait des cellules avec des murs porteurs tous les 5 mètres, enfin, classique, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est...
On a abouti en 85, voilà. On a emménagé en 85.
Et j'en reviens à cette coopération avec les HLM, ils vous écoutaient réellement, parce que souvent, on peut faire semblant d'écouter la population, mais là, non.
Non. Alors, quand ils ont eu le permis de construire, il y a plusieurs familles, je ne sais jamais combien.
5.
Puis on dit, bah non, finalement.
On ne vient plus.
On ne vient plus.
Et ils ont eu peur du...
Ils avaient aucune soupape de sécurité, quelque part, à part nous. C'est-à-dire qu'on n'était pas en association encore. Tout pouvait leur péter dans les toits. Ils n'avaient aucun recours.
Il y avait un accord. Mais quoi, ils prendraient des locataires habituels.
Alors, voilà, donc, nous... Ils voulaient qu'on continue et nous, on voulait continuer aussi, tous ceux qui restaient. Donc, on a cherché d'autres
gens
et on a cherché des copains et voilà. Bon, et après, ça a pu se faire en modifiant un peu le bâtiment parce que du coup, dans ceux qui étaient partis, il y en a qui avaient un truc
trop grand logement
de 120 mètres carrés, je ne sais plus combien. Hein,
ouais, qui a été séparé en deux.
Donc, ça a été... Voilà.
Et cette coopération avec les HLM,
ouais.
Cette implication des habitants dans la conception, est-ce qu'elle s'est prolongée dans la gestion du bâtiment?
Bien sûr. Bien sûr, puisqu'on avait mis au départ pas de gardien, c'est nous qui assurons l'entretien des parties communes intérieures et extérieures.
Donc au niveau frais location, on n'avait pas de charge, si ce dossier.
Ordures ménagères obligatoires.
Voilà, oui, c'est ça, les trucs vraiment obligatoires. Voilà. Mais autrement, c'est nous qui assurions l'entretien. Et quand un moment, enfin, deux fois on a rénové hein, les coursives, non ?
Oui, repeint.
Oui, repeint. Ils ont fourni la peinture et nous, on a fourni les bras.
On avait un peu de mal à faire respecter par l'agence locale.
Ah oui.
Parce que comme on a 60 km de Voiron, le siège est à Voiron, on est à 60 km. Et il y a une antenne locale. Et l'antenne locale, elle comprenait pas très bien ce qui se passait. Donc, un peu de mal à faire respecter leurs obligations de propriétaire et nous, nos obligations de locataire. Par exemple, ils ont fini par dire « Ah bah oui, on vous achète les ampoules et puis c'est vous qui les mettez. » Et à un moment donné, l'exposition ouest, les volets ont été très abîmés par le soleil. Il a fallu plusieurs demandes et réunions pour qu'ils changent les volets quand ils étaient propriétaires. Voilà. Puis après, il y a eu des changements. Alors, pour dire, pendant 10 ans, c'était que des locataires. Au bout de 10 ans, il y a une politique nationale qui les a obligés à mettre des surloyers parce que nos salaires avaient, on avait droit au HLM au départ. Et après, nos salaires avaient un peu augmenté. Donc, on était amené à payer des surloyers. Et à ce moment-là, il y a des habitants du départ qui ont dit, nous, on veut pas payer le surloyer. Si c'est pour payer du surloyer, on va accéder à la propriété un peu plus loin. Donc, il y en a 4 ou 5 qui sont partis. Ils ont fait un nouvel habitat groupé en accession à la propriété.
Voilà.
Mais sans locaux communs. Voilà. Et du coup, ça, c'était en 95. Entre 95 et 2000, on a eu un passage de locataires tout venant.
Tout venant.
Parce qu'on avait la possibilité de faire venir des gens qu'on connaissait, mais on ne connaissait plus de gens qui cherchaient des logements au bout de 10 ans. Vous savez, c'est quand même à eux par tranche d'âge. Donc, du coup, c'était un peu fatigant. Même si ça se passait relativement bien, ils nous ont quand même mis des familles en difficulté, sachant que peut-être justement on les cadrerait un peu. Et du coup, moi j'avais écrit en disant, écoutez, on aimerait bien acheter nos logements, est-ce que c'est possible? Et ça a été possible en 2001. Alors, parce qu'il y en avait beaucoup de libres, et du coup, en 2001, on est devenu propriétaire. Mais les locataires qui restaient, à savoir 2 locataires, il n'y avait plus que 2, eux, ils sont restés locataires et ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on est en copropriété avec les HLM, puisqu'ils ont leurs 2 locataires.
Et donc les locataires qui sont restés,
oui.
Il y a une famille avec le monsieur, il est tout seul avec ses adolescents.
Ses 3 enfants.
Et il est arrivé en 90, il n'est pas trop dans le mouvement.
Mais bon, il est bien.
Ça va, il est sympa. Et puis, une locataire du départ, du petit immeuble du départ.
Qui est toujours là.
Qu'on a connu dans le dans
avant
l'immeuble.
D'habiter.
Et donc, qui est venue avec nous dans le projet. Maintenant, elle est dans le projet. Voilà.
Voilà. Au bout du compte, vous avez réellement vécu en commun avec les gens de ce HLM
On se connaît tous, on se parle. On a une association, en plus de la copropriété et du syndic, on a une association d'habitants qu'on réunit régulièrement à la demande pour faire des fêtes ou pour quand il y a des difficultés. Et à ce moment-là, on parle ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre n'importe qui, avec un ado qui n'arrête pas son scooter là où il faut, qui fait du bruit le soir, comme n'importe où. L'avantage, c'est simplement qu'on peut en parler et remettre les choses en place et lui dire « Tu nous emmerdes, Florian, avec ton scooter. Il faut que tu l'arrêtes là. » L'autre jour, on a vu, il a arrêté. Mais bon, c'est un ado, voilà.
Ouais, bon, il est sympa.
Ouais, on arrive, voilà.
Tout ce que vous avez vécu, cette expérience d'habitat groupé, quand vous l'avez mené, ça existait déjà, mais est-ce que vous avez songé à transmettre cette expérience?
Alors, au départ, non. Et puis, comme en 2008, quand il y a eu des gens qui sont revenus, 2007 même, des groupes de gens, ils sont venus nous voir en disant « Ah, mais ça existe, la vie d'un groupe, qu'est-ce que vous faites ?» etc. Ouais. Et qui nous posaient plein de questions. Donc, on a un peu transmis ce qu'on trouvait bien, ce qu'on trouvait moins bien. Et comme on a été sollicité par l'association pour la faire revivre, on s'est rendu compte au sein de l'association que les différents groupes avaient beaucoup de choses en commun et des choses différentes. Donc, le fondateur, il s'est dit, il faut faire un recueil d'expériences. On a sollicité la Fondation de France et on a aidé des chercheurs. On travaille avec une chercheuse qui s'appelle Anne Dorazio. Et du coup, elle nous a trouvé des étudiants, des stagiaires. On a eu 3 stagiaires et on a fait le recueil d'expériences sur 24 groupes d'habitants groupés et on a pu avoir 70 entretiens individuels.
Et
Alors, on va faire un bouquin à partir
et,
de ça.
Et une chose qui a été étonnante, c'est que quand enfin, Cécile, par exemple, c'est à recontacter des groupes qu'on ne connaissait plus, qui étaient du début, qui étaient...
Qu'on avait connu en 80.
Un à la Croix-Rousse, l'autre
à Francheville. Enfin, on s'occupait de la région Rhône-Alpes. Ouais, ouais.
Eh bien, ils ont répondu OK. Et ils ont
très contents.
Ils étaient contents de participer
à l'expérience, au recueil.
Toutes ces expériences sont donc consultables sur un site.
Sur notre site, Écohabitat Groupé.
www.écohabitatgroupé.fr.
Voilà.
Voilà. Et donc, cette transmission d'expérience, vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes qui souhaiteraient justement tenter cette expérience en groupe de construire ensemble?
Alors, en fait.
Ça n'a pas fini en plus. Parce qu'en fait, l'Écohabitat Groupé, c'est sur toute la France. Or, quand même, il y a des caractères régionaux qui sont différents. Par exemple, Strasbourg a toujours été assez en pointe dans l'habitat. Voilà. Donc, il y a des associations locales
Éco-quartier
Strasbourg. Voilà. Lille aussi. Lille a fait des appels à projets. En Bretagne, ça se passe un peu différemment. Mais ça,
il y
a Rennes.
Brest.
Et puis, nous, il y a Rhône-Alpes. Et puis, il y a PACA. Voilà. Et donc, plusieurs associations locales se sont créées qui se fédèrent, enfin, entre guillemets, hein, ou avec l'Écohabitat Groupé, ou avec carrément la Coordination, qui est une association
nationale
qui, elle, c'est une association d'associations, en fait. Nous, l'Écohabitat Groupé, c'est une association d'habitants. C'est-à-dire que les habitants en association, comme la Viorne, on adhère à l'Écohabitat Groupé. Et là, la Coordination, c'est l'Écohabitat Groupé qui adhère à la Coordination. Voilà, donc c'est une association d'associations. C'est une
fédération
encore.
Une
fédération.
Pour en revenir à l'expérience. Parce que,
et là, localement, il y a Coaptitude.
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les groupes qui arrivent jusqu'au bout, et puis les groupes qui se constituent, ils ont tous besoin d'aller voir concrètement que ça existe déjà.
Oui.
Et pour avoir un peu en langage commun, on a fait ce recueil d'expériences. C'est pas qu'on se contredisait, mais pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, voilà ce qu'on peut vivre. Mais c'est des choses qu'eux vont décider. Et on les encourage, nous on est toujours dans l'esprit autogestionnaire, on les encourage à prendre leurs responsabilités, à y aller et pas à attendre que ça se fasse, parce que ça se fera jamais tout seul. Voilà. Donc ils ont besoin de notre expérience, plus pour dire ça existe, ils ont vécu des choses bien. Nous, on n'en vivra pas les mêmes, mais ça sera bien quand même. Voilà. Et nous, on avait été voir des habitats avant de faire le nôtre. Hein. Et on sait que c'est ça qu'ils nous tenaient en disant, puisqu'il y en a, ils l'ont fait, il n'y a pas de raison, nous, on n'y arrive pas.
Et on vous a déjà consulté pour partage d'expérience, justement?
Oui. Oui, oui, les gens, ils viennent, ils nous posent plein de questions. Et comment ça se passe? Est-ce que vous êtes... Par exemple, dernièrement, parce qu'on a fait une autre association à Lyon, Coaptitude, pour la région lyonnaise. Et bien dernièrement, la trésorière de l'association, elle m'a dit « Ouais, il faut que tu m'envoies ton règlement intérieur parce que pour notre nouveau groupe, on en a besoin. » Alors, ils n'ont pas encore construit. Oui, oui. Et le règlement intérieur, c'est de l'expérience. Parce que je me suis rendu compte, on l'a revisité 3 fois déjà. Peut-être tous les 10 ans.
Et par exemple, il y a le village vertical qui maintenant est dans ses murs depuis
2 ans.
Quand ils étaient encore en projet,
ils sont venus chez nous.
Ils sont venus chez nous faire une réunion.
La seule réalisation nouvelle sur Villeurbanne.
Voilà, ils sont venus faire une réunion dans notre salle
commune.
Chez nous,
toute la journée. Et on a pu le rester, assister.
Voilà.
Comme expérience. Il y en avait un, il dit, moi je travaille la nuit et je vais habiter au-dessus de la salle commune. Je lui dis, ah bon, t'as bien réfléchi? Tu sais qu'il va y avoir du bruit dans la salle commune.
Alors,
ouais, c'est vrai. Du coup, après, ils ont pris un ingénieur acousticien. Ouais. Des trucs tout bêtes, quoi. Voilà. Parce que nous, on aurait voulu, on le savait, mettre la salle commune à l'extérieur des bâtiments, mais les finances ne l'ont pas permis. Donc, du coup, celle qui est au-dessus, elle a tous les bruits. Voilà. Des petits trucs. Et puis, on aime mieux transmettre notre expérience de vécu que d'architecture, en fait. Ouais, on a eu des bons moments. Oui, on a eu des moments difficiles, oui.
Mais faut voir, ça a tenu le coup. Et puis, quand on a acheté, il y en a qui sont revenus. Des femmes seules, d'ailleurs. Sont revenues, deux. Qui avaient divorcé. Voilà. Et puis, il y a l'enfant, l'une, qui est venue.
Enfin, oui, comment, un enfant qui est venu, mais qui est resté 5 ans et qui est reparti.
Et puis, ils sont repartis. Il y a elle et puis son fils sont repartis.
Ils sont repartis.
Ça a libéré deux appartements.
Voilà. Et du coup, ça a
permis
de nouveau...
Il y a une autre qui a libéré un troisième. Et là, il est arrivé, donc il y a 2 ans, un couple. Ce sont des ingénieurs d'une association qui s'appelle Crater, qui travaille autour du Pisé. Il y a un laboratoire à Villefontaine, il y a un petit quartier en terre avec différentes formes de travail du Pisé. Ils venaient travailler à Villefontaine, habitant la Croix-Rousse.
À Lyon.
Et donc, un jour, ils ont vu sur
le réseau de l'habitat groupé
une annonce.
Ils sont venus.
Et ils sont venus. Ils sont très dynamiques. Il y a un jeune couple qui est venu habiter à côté.
Qui a découvert l'habitat groupé.
Les barrières qu'il y avait entre leurs deux
jardins.
Ils ont tout fait sauter. Tout. Alors, ça fait un grand truc avec de l'herbe pour les enfants. Et là, le garage à vélo, qui était en fait, au départ, c'était
les locaux évolués.
Pour les enfants. C'était la salle enfant. Mais ça n'a jamais bien fonctionné. C'est devenu le garage à vélo. Mais maintenant, ils veulent que ça soit la salle commune. Que ça soit
une chambre d'amis.
Et donc, ça y est, on est en train de tout modifier pour que ça soit une chambre d'amis. Alors, on se dit, c'est marrant, ils sont arrivés il y a 2 ans. Et hop, ça y est, ils redynamisent les... Voilà, c'est très bien. Hein. Nous, on est contents que ça...
Ce qui m'étonne dans votre témoignage, c'est que vous ayez réussi non seulement à faire en sorte que les offices HLM... collaborent, écoutent des habitants et au niveau de la conception et au niveau de la gestion et aussi que des architectes écoutent des...
Voilà, alors je lui ai dit qu'en général, les premiers architectes et beaucoup d'architectes avaient du mal à écouter les habitants et que quand les gens nous disent ça, on leur dit « vous cassez pas la tête, changez et cherchez un autre architecte qui sait écouter les habitants ». Et au jour d'aujourd'hui, il y a des architectes à Marseille, aux rencontres nationales, qui commencent, alors je ne sais pas où ça en est, mais il y avait un atelier sur la constitution d'un réseau d'architectes pour l'habitat groupé participatif, où ils vont établir un genre de charte en disant « on n'est pas là pour faire une œuvre architecturale, on est là pour écouter les habitants et faire une architecture qui corresponde aux besoins de nos habitants ». Voilà. Ça, il y a de jeunes architectes qui sont dans ce mouvement-là. Et même la réalisation type d'Abicop, qui s'appelle le village vertical à Villeurbanne, ils ont eu ce problème-là. C'est-à-dire que, parce qu'on les a suivis un petit peu, comme ils sont pas bien loin de chez nous, à 30 km, la première fois où je suis allée, il y avait un cabinet d'architectes qui a présenté les choses. Bon. Ensuite, on est allé les voir avec Jean-Michel, on leur a dit aux architectes, mais attendez, vous avez travaillé avec le groupe, il y a quoi dans les locaux communs? On n'entendait rien. Bof, on a eu des réponses évasives. Et la deuxième fois, on y est retourné, quand le chantier avait démarré, il y avait un autre architecte.
C'est plus les mêmes.
Que je connaissais, parce qu'il m'avait déjà appelé à l'éco-habitat groupé, pour me dire voilà, je veux faire l'habitat groupé. Il savait ce que c'était, parce qu'il a sa tante qui sait ce que c'est. Eh bien, le langage, il n'était pas le même. Il avait même changé des choses que les premiers n'avaient pas osé. C'est-à-dire qu'il y a 3 allées au village, 3 montées d'escalier, et ils voulaient mettre un ascenseur dans chaque montée d'escalier. Et les habitants du village, ils ont dit, nous, on a de la chance, on est jeunes, on n'a pas besoin d'un ascenseur, on veut gagner de la place, mettez-le dans l'allée d'à côté, et on s'arrange avec les habitants d'à côté pour quand on en aura besoin. Il avait entendu les gens. Ils ont dit, c'est pareil maintenant, on ne dépense pas trop d'eau, on n'a pas de baignoire. Ils ont réussi à faire entendre à l'architecte qu'ils ne voulaient que des douches et à mettre une baignoire commune en bas. Alors les premiers, ils n'avaient rien entendu de ça. Ça s'entendait qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé avec les habitants.
Oui,
dans la façon dont ils présentaient le projet.
Voilà, quand ça sortait de leur...
C'est « je », quand on dit « je ».
De leur cadre habituel.
Ouais. Non, c'est beaucoup de groupes ont plusieurs architectes.
Et alors, en ce qui concerne les sociétés de HLM qui ont su associer les habitants, est-ce que c'est une expérience répandue?
À l'époque, il n'y en avait que 3 ou 4, maximum 10, parce qu'il y en a eu en Bretagne aussi quelques-unes dans les années 80. Et puis, depuis la loi Allure qui reconnaît l'habitat groupé participatif, et puis le fait que nous, à notre association, on a toujours sollicité les bailleurs sociaux, au jour d'aujourd'hui, on a le directeur de l'Union sociale pour l'habitat, qui est responsable des sociétés coopératives d'HLM qui militent en notre faveur et qui a réussi à diffuser l'idée au niveau des sociétés coopératives d'HLM. Et il a mesuré à Marseille, il y a 40 projets en cours et qui représente presque 400 logements. Donc aujourd'hui, il y a un réseau des bailleurs sociaux pour l'habitat participatif.
Donc c'est une idée qui est en train de se diffuser.
Oui, oui.
À Marseille, nous on a même été surpris, nous, hein, agréablement de la participation de gens, enfin de professionnels, des élus,
Parce que les élus, c'est plus important qu'il y a 20 ans, parce que l'urbanisme et le foncier, maintenant, il est au niveau local, il n'est pas à un autre niveau. Donc on dit à tous les groupes, contactez vos élus, parlez-leur vos projets, et puis alors surtout contactez les voisins une fois que vous avez acheté le terrain. Parce qu'il n'y a pas de projet sans recours, mais il y a des recours aussi pour des projets privés. Hein. Donc il faut que les gens comprennent ce que c'est que l'habitat groupé participatif, au point que nous, on nous avait traité de comment ça s'appelle ?
Socialo-communiste.
Voilà, on a un groupe à Solé-Chartreux,
ah oui.
Ils ont dit que c'était un colcause, alors ils se sont appelés le colcause.
Voilà, maintenant c'est marqué le colcause sur les comptes d'avocats.
Voilà, donc à partir du moment où il y a quelque chose de commun et de collectif, les gens ont peur.
Et pourtant, de nos jours, une des évolutions prévisibles et souhaitables de la société, c'est qu'on implique quand même les gens dans ce qui les concerne.
Bah, bien sûr.
Ça me paraît tellement
essentiel. C'est aussi possible, peut-être, qu'il y ait un peu de renouveau, quand même. Parce que les gens, il faut qu'ils arrivent à penser qu'ils peuvent habiter autrement que dans une cage conçue par un architecte qui ne s'est pas cassé la tête, quoi. Voilà. Et ça commence à faire son chemin. Quand même.
Bah, conçu par un architecte qui ne s'est pas cassé la tête.
Un promoteur qui
leur a vendu ça comme il vendait le même aux voisins. Un banquier avec des prêts, il paye avec des prêts qu'un banquier accorde, voilà, avec beaucoup de rallonges.
On nous demande souvent si ça coûte plus ou moins cher qu'un autre habitat. La différence, elle est effectivement dans le coût de la promotion que peut faire le promoteur. Il n'a pas besoin de faire promotion puisqu'il a tous ses habitants. Donc, ça peut être entre 5 et 15%.
Et c'est moins cher ?
Oui, en fonction de ça, attention. Hein. Mais à bâtiment égal, avec des locaux communs, on paye le même prix, mais on est mieux servi. Parce qu'on a non seulement l'appartement, on a choisi, conçu, mais en plus, on a la jouissance de locaux communs.
Ah, ce qui est important, je trouve, normalement, en accession à propriété ou en SCI, c'est pas un truc, mais en locatif, comme on a commencé, nous. Eh bien, les HLM, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont accordé un pourcentage de locaux communs en fonction de la taille de notre
foyer.
Souvent, on avait des millièmes, en fait, quelque
et
part.
Et on payait déjà,
alors qu'on était locataire et non pas... Et donc, ça permettait de régler le loyer des locaux communs sans problème. Alors que, par exemple...
Nous, on était 5, c'est nous qui payons plus.
À Villeneuve d'Ascq, il y avait les crieurs à l'époque, qui étaient aussi en HLM. Et là, c'était différent. C'était l'association
des crieurs
qui payait l'appartement commun au HLM. Et seulement, il y avait des rotations, il y avait des machins. Et puis,
la population s'est appauvrie et ils ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus payer.
Ah, donc
alors que quand c'est dans le loyer, tranquille.
Voilà. Donc, si on fait une vraie péréquation,
oui, ouais, c'est ça.
Voilà. Et on l'a fait en copropriété, on l'a fait. Hein.
Donc ça se réglait au fur et à mesure, au niveau des départs, des entrées de locataires et des départs de locataires.
C'était
vous
dans le loyer.
Réaménagiez selon les départs.
Bah, c'est l'HLM, c'était dans le loyer, disait le loyer s'étend. Point. Voilà.
Ah, mais après, le pourcentage de locaux qu'on avait, c'était fictif. Enfin, c'était virtuel.
Par contre, il y a un accord, c'est-à-dire que si un jour ça ne fonctionne plus au niveau du groupe, la salle commune, elle peut se transformer en studio d'habitation.
Voilà. D'ailleurs, ils ont eu les prêts, en plus.
À cette condition-là, ça soit réversible.
C'est ça le ministère, comment ça s'appelle ?
Du logement.
C'est
quoi,
le plan, ça s'appelle, je crois.
Quinquennal ?
Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'il y a, ce qu'il faut bien voir par rapport au locatif, c'est que nous, on est retourné il y a quelques années avec Yves de Lagosi, le
fondateur du mouvement.
On est allé voir les. Oui, il a eu un accident mortel.
Décédé accidentellement.
Et donc, on est retourné avec lui voir les HLM,
les mêmes,
voilà, 20 ans après. Ils ont expliqué qu'en fait, c'était de plus en plus compliqué, les choses, parce que. Il y avait des commissions pour d'attribution, des choses comme ça. Les gens, il fallait qu'ils rentrent dans des cases. Ils ne pouvaient pas se coopter comme on l'avait fait. Donc, quelque part, d'avoir plus de sécurité pour les locataires, ça enlevait de la liberté pour les mêmes locataires. Et nous, on a eu certainement plus de facilité que maintenant.
Et puis, il lui a demandé quand même, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et comme il a dit, Monsieur Marion, il a dit que du bénéfice,
oui,
que du plaisir.
Oui, c'était du plaisir.
Il y a quand même peut-être un investissement supérieur pour un habitat groupé de la part de chacun individu que s'il est stricto sensu dans un HLM et qu'il se fout de rien et qu'il est de tout. Vous avez
un
investissement.
Et puis on a permis quelque part un maintien du patrimoine en nettoyant, en peignant. Pour eux, ils l'ont laissé entendre, hein. C'était quand même quelque part, c'était un plus, ils étaient tranquilles hein, avec la Viorne. Ils savaient que c'était un truc qui tiendrait debout.
Quelque part, au départ, si j'ai voulu faire ça, je le pense toujours un peu, c'est que je pense que notre habitat, il a une influence sur la façon dont on vit. Et que vivre dans un habitat où on peut croiser son voisin, lui dire bonjour, avoir avec lui des bons rapports, pouvoir rentrer et sortir, frapper chez lui, être bien accueilli, choisir la possibilité, lui donner la responsabilité de mes enfants quand je n'étais pas là. Je pense que l'habitat y a contribué. Pour moi, l'habitat, il ressemble un peu à ce qu'on veut être. C'était un peu un objectif à atteindre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Et je trouve que c'est important de vivre dans... Alors, il y a des lotissements où les gens arrivent ensemble, se causent, parlent et ont une vie de groupe. Mais pour moi, c'est l'exception, il confirme la règle. En général, dans les lotissements, c'est chacun chez soi et je ne cause pas à mon voisin. Les résultats, chez nous, c'est impensable qu'on trouve quelqu'un mort chez lui parce que quelqu'un qu'on ne voit pas pendant quelques jours, tout le monde se dit « Tiens, il est parti. Tiens, il est malade. Qu'est-ce qui se passe ? Sa voiture n'allait pas au garage. Qu'est-ce qu'il a ?» On s'inquiète de ce que devient le voisin, parce qu'on se connaît, mais il ne faut pas dépasser 15 ou 20. Après, on n'y arrive plus.
Alors, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, l'éducation des enfants.
Ah oui.
Parce qu'il y avait la place pour les garder ensemble.
Oui,
s'il y avait la place pour les garder ensemble, le besoin de la place pour les garder ensemble, c'est qu'on acceptait que les enfants puissent, des moments, être gardés
ensemble.
Sous l'autorité du voisin. Et... On en a discuté, hein, on s'est mis d'accord, pour bien être au point. Parce que c'est vrai que les enfants, on le voit déjà dans un couple, s'il y en a un qui dit un truc, puis que l'autre après dit le contraire,
ils
savent bien en profiter pour ce qui les arrange le mieux. Et alors là, on s'est dit, si on multiplie les adultes responsables, comment ils vont faire, les sacripants? Donc voilà, il fallait qu'on soit d'accord entre nous pour dire on laisse la responsabilité de notre enfant à la personne qui le garde.
Voilà.
Et il y arrivait des moments. Des
moments, c'était difficile parce que les parents ils sont venus nous voir en nous disant « Ouais, ton fils, il aguiche ma fille, etc. » et tout. Je lui ai dit « Moi, je ne veux pas le savoir. Tu lui dis à lui. Je ne veux pas le savoir. Tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis à lui. »
Et le même fils, plus petit que quand ils avaient... Il y a un voisin qui les avait entraînés de faire
un autre voisin,
sur les étangs.
On a beaucoup d'étangs.
À faire sur des trucs de polystyrène, à faire du bateau avec
c'était la voisine la copine qui le gardait. Et, tac tac.
Bah il a pris une fessée. Hein.
Parce la copine. Bien fait.
Ça a été dur. Non mais voilà.
Vraiment, et il y a des choses que nos enfants ont dit à nos amis voisins qu'on ne saura jamais.
Ouais.
Mais c'est normal. Ouais.
Et moi, je me rappelle, donc, ils étaient trois...
pas
les plus grands, hein, donc
les
deuxièmes. Et au mariage d'un des trois, ils ont fait une déclaration aux gens du mariage en disant « On n'est pas des frères, on n'est pas des amis,
pas des copains, ni des cousins.
Des cousins. Mais vous ne pouvez pas comprendre. »
C'est plus que ça. Pour nous, c'était chouette.
Nous, c'était fou. C'est très émouvant. Hein.
Une petite question pour terminer. Si d'aventure des gens souhaitait vous contacter pour partage d'expérience, j'ai l'impression que vous êtes,
pas de problème.
Vous êtes très ouverte.
Ouais, hein. Ouais.
Donc je mettrai sur la page de l'interview vos coordonnées, le lien vers votre site.
Voilà.
Si des gens effectivement se lancent, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est tellement profitable voilà. d'entendre des gens qui ont vécu cela, qui ont lancé ce genre d'habitat participatif groupé.
Voilà. On est venu à Viterre.
Ah, oui.
Mais par contre, là, c'est nous qui l'ont demandé. Parce qu'on voulait savoir ce qu'ils faisaient. Et on a eu, par contre, des questions de l'autre habitat qui s'appelle la SCI de Lomé, Adi. Il y a deux habitats groupés hein, dans le coin. Et il y a des projets, mais il y a encore...
Plus celui de Dieu le Fils.
Ah oui, cours à vie à Dieu le Fils.
Cours à vie à Dieu le Fils.
Et ça y est, ils ont déjà le terrain et ils cherchent du monde. Voilà. Parce que comme j'ai la chance d'être en retraite et de pouvoir un peu me consacrer à ça, du coup, je m'intéresse bien à la région Rhône-Alpes et j'hésite pas à aller d'un coin à un autre parce que moi, je suis comme Saint-Thomas quand j'ai pas vu.
Et vous pensez que si d'aventure des personnes dans un HLM qui a malheureusement été conçu dans les années 60, la mode stalinienne, c'est-à-dire je veux voir qu'une tête, est-ce que vous pensez que c'est possible de négocier avec les HLM le fait d'impliquer les citoyens, locataires et que c'est bénéfique aussi
dans
la gestion de
Ils demandent que ça en général, les HLM.
Et nous, on était encore en projet hein, quand on est allé au Minguette.
Ah oui,
on était allé au Minguette. Tu vois, vous avez jamais vu les appartements des tours des Minguettes? C'est immense, ils sont très grands.
C'est des T5 superbes.
Ils tiennent toute la
tour, la moitié de la tour. Non, la moitié.
Je sais plus, enfin bref.
Ouais.
Et ils avaient un appartement.
Comme ils cherchaient à le repeupler, HLM leur avaient donné un appartement gratuit.
Gratuit pour faire le local commun.
Il y avait un habitat groupé.
Il a périclité ce
4-5 ans. Mais j'en connais un qui a vécu là-bas, il en garde un super souvenir. Non, à ce moment-là, bien sûr que s'il y avait un groupe de locataires, ils disaient, voilà comment on voudrait vivre dans nos logements, est-ce qu'on pourrait en avoir un appartement commun? Il y a quand même dans les HLM une prise de conscience que quand il y a des demandes d'un groupe de locataires, ils ont tout intérêt à y répondre si c'est des choses qu'ils peuvent faire. Si c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils le disent. Mais il y a une société à Lyon qui a même payé une animatrice dans un groupe de HLM de gens, vraiment les HLM les moins chers, où ils ont fait des locaux communs, où ça fonctionne quand même, hein, où les gens cherchent à se rencontrer. Mais pour que ça marche vraiment et que ça dure, il faut qu'il y ait à la fois un groupe, c'est-à-dire au moins 3, 4 ou 5 familles, le mieux c'est 10, qui conçoivent et qui réalisent. Parce que quand on intègre des logements qu'on n'a pas soi-même choisis, même si on y est bien... Et une fois, il y en a un qui m'a dit « Ouais, on va mettre une salle commune à disposition. » Elle ne sera pas habitée, votre salle commune. Si vous avez... Du reste, il y a une expérience qui vient de se réaliser à Ferney-Voltaire, où il y a un appartement type CODA, Suisse.
Ah oui.
Il y a un immeuble type CODA Suisse.
Immeuble,
Il y a un immeuble en accession sociale en propriété et un immeuble en locatif. Ben, pour les Suisses, c'était impensable qu'il n'y ait pas de buanderie. Les autres, ils n'en voulaient pas. Ils n'ont pas fait de buanderie commune. Ils ont laissé la buanderie aux Suisses. Ce qu'ils ont fait en commun, c'est une association. Et ils ont une chaufferie bois, c'est en Savoie, hein, vers Ferney-Voltaire. Ils ont une chaufferie bois commune. Il y a un local commun à la fois pour les locataires et pour les copropriétaires. Alors ce qu'on dit maintenant au Danemark, c'est qu'ils font par groupe de 10 ou 20 par tranche. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble de 10, un immeuble de 10, un immeuble de 10, avec chacun au commun, mais ils peuvent faire un truc ensemble et ça donne plus de possibilités.
Donc de toute façon, que les architectes ou en tout cas les groupements de locataires prévoient dans les plans une partie commune.
Voilà. Alors il y en a qui prévoient que les jardins en disant c'est très bien. Je veux bien encore ici quand il fait beau, mais à même 5-6 mois de l'année où on n'est pas dans le jardin quand même. Voilà.
Très bien. Eh bien, Cécile et Jean-Michel Vialon, merci pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Merci.
Au revoir.